Il est 7h sur Inter. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes le 3 mars. Bienvenue, le journal Claire Checagellini. Bonjour Claire.
Bonjour.
Les Algériens de France se mobilisent. Manifestation aujourd'hui à Paris, à Marseille, à Toulouse pour soutenir les opposants à Abdelaziz Bouteflika. Le dossier de candidature du président au pouvoir doit être déposé ce soir au plus tard. Les autres titres?
Des gilets jaunes moins nombreux. Hier, manifestation dans le calme à Paris, mais toujours des violences en région. À Bordeaux, un député de la France insoumise dénonce la politique du maintien de l'ordre définie par le gouvernement. Vos vaches et cochons, bientôt de retour à la ferme, dernier jour du Salon de l'agriculture de Paris, l'occasion ce dimanche encore de faire découvrir aux plus petits quelques 4000 animaux exposés porte de Versailles.
L'invité à partir de 8h20 ce matin, l'essayiste Claude Habib pour son dernier livre « Comment peut-on être ?» Tolérant, publié aux éditions des Clés de Brouwer. La tolérance en question aujourd'hui, rendez-vous à partir de 8h20.
France Inter.
L'Algérie est donc suspendue à une décision cruciale pour son avenir.
C'est en effet ce dimanche que le dossier d'Abdelaziz Bouteflika doit être déposé au plus tard au Conseil constitutionnel d'Alger en vue de briguer un cinquième mandat présidentiel. Mais hier, le directeur de campagne de l'octogénaire a été limogé. Signe d'un changement de stratégie ou péripétie d'une candidature annoncée, la rue pourrait se faire réentendre après le succès des marches de vendredi. De l'autre côté de la Méditerranée aussi, l'heure est à la mobilisation. Manifestation prévue à Marseille, à Toulouse et à Paris. Rassemblement dans la capitale à 14h, place de la République. Un rendez-vous que ne manqueront pas des Algériens de Belfort qu'a rencontré Manon Klein avant leur départ.
Ici à Belfort, beaucoup de personnes suivent de loin ce qui se passe en Algérie selon Ali Saab.
Et je pense qu'il y a une attention particulière ces jours-ci. Les gens sont branchés sur les satellites pour voir un petit peu ce qui se passe en Algérie. C'est, franchement, les gens ils sont de l'autre côté de la Méditerranée pour le moment.
Ali Saab va manifester à Paris. Il habite en France depuis 1993, mais il se sent concerné.
On habite en France, effectivement, mais on a toujours des attaches en Algérie. Il n'y a pas un Algérien ici en France qui n'a pas son frère, son cousin en Algérie. Donc, on va toujours en Algérie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on s'est détaché de nos origines.
Slimane, lui, a grandi dans le pays de Montbéliard. Il ne peut pas se rendre à Paris ce dimanche, mais il soutient la démarche.
Le lien affectif, il reste très fort. Donc, du coup, on se sent obligatoirement concerné, impacté par ce qui se passe de l'autre côté. Quoi. Donc du coup, c'est pour ça que ça nous interpelle. Quoi. Le désespoir des jeunes de l'autre côté de la Méditerranée pose quand même problème. Quoi. Aujourd'hui, il y a un potentiel extraordinaire. Pourquoi ce potentiel-là fuit le pays? Le problème est là. Quoi. À un moment donné, les gens aspirent à de la liberté, à de l'équité, à de l'égalité.
Slimane et Ali espèrent tous les deux que la mobilisation fera bouger les choses. Premier objectif pour eux, qu'Abdelaziz Bouteflika renonce à déposer sa candidature à l'élection présidentielle.
Et puis, dans toute la France hier, les gilets jaunes étaient appelés à battre le pavé pour le 16e samedi consécutif. Ils étaient un peu moins de 39 000 hier, contre plus de 46 000 la semaine dernière. Des rassemblements une nouvelle fois marqués par des heurts à Nantes, à Toulouse, à Lyon, mais aussi en fin de cortège à Bordeaux. Comme presque chaque samedi, le député de la France insoumise, Loïc Prud'homme, a lui aussi été défilé. Mais cette fois, cela s'est mal terminé.
Je quittais la manifestation, j'étais à plusieurs centaines de mètres de la place Péberlan où chaque samedi soir la situation se tend et comme toujours dans ces cas-là, je quitte rapidement la place dès que la situation était un petit peu tendue. Je me suis retourné et voilà, j'ai constaté qu'il y avait une charge de force de l'ordre qui courait vers moi et mon ami qui m'accompagnait à ce moment-là. J'ai juste eu le temps de saisir ma carte de député, de lever les bras et de décliner et crier mon nom et ma qualité. Mais rien n'y a fait. On a eu droit à quand même une volée de matraque assez violente. Je pense qu'aujourd'hui, on a franchi un seuil inacceptable. Il faut aujourd'hui que cette doctrine de maintien de l'ordre soit remise en question et surtout que les gens qui donnent les ordres, à savoir le ministre de l'Intérieur, tire les conséquences de cette énième bavure. Je veux dire qu'un simple citoyen qui subit ces actes, c'est déjà très grave. Un député, à mon avis, on franchit encore un nouveau cap.
Bernard Tapie dénonce, je cite, « des conneries ». Plus de 25 ans après l'affaire VAOM, Marc Frattani affirme qu'il avait corrompu un arbitre pour une autre rencontre de l'Olympique de Marseille. Marc Frattani était alors l'homme de confiance de l'ex-président du club phocéen. Dans Le Monde, l'ancien bras droit explique aussi que Bernard Tapie, qui avait un temps voulu briguer la mairie de Marseille, avait été reçu à Montretout chez Jean-Marie Le Pen. L'ex-homme d'affaires a annoncé qu'il attaquerait en justice son ancien collaborateur et le journal Le Monde. La stèle a été remise en place hier après-midi, mais reste cette nouvelle insulte à la mémoire des Juifs. Une stèle qui marquait l'emplacement de l'ancienne synagogue de la capitale alsacienne a été vandalisée la nuit dernière, enfin la nuit d'avant. L'édifice, pardon, excusez-moi, je m'y perds un peu. L'édifice religieux avait été détruit par les nazis en 41, un acte d'antisémitisme qui intervient alors que 96 tombes avaient été profanées dans le cimetière juif de Katzenheim il y a 2 semaines. Alors pour aller au-delà des réactions d'indignation, le rectorat de l'Académie de Strasbourg et le mémorial de la Shoah ont renouvelé leurs accords vendredi, à la clé notamment des voyages de lycéens à Auschwitz, alors qu'un Français sur 5 reconnaît ne pas savoir ce qu'est la Shoah. Mais pour Jacques Fredge, le directeur du mémorial de la Shoah, il est hors de question que ce soit une fatalité.
Moi, j'inverse les chiffres. C'est-à-dire 1 sur 5, ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5 qui savent déjà. Donc je me dis que finalement, ce qu'on fait n'est pas forcément inutile. Ça, c'est la première des remarques. Et la deuxième des remarques, ça veut dire qu'il faut qu'on continue et qu'on accentue le travail que nous accomplissons. L'éducation est un travail récurrent et donc c'est à nous d'être encore plus pertinents et encore plus présents sur ces actions pour arriver encore à, en effet, éviter que des jeunes se perdent sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah, mais surtout en général, parce que sensibiliser les jeunes à l'histoire, c'est aussi leur faire comprendre qu'on ne peut pas tout écrire n'importe comment, que l'histoire s'écrit avec des documents d'archives. Et donc c'est aussi mettre des jeunes en garde sur ce qu'ils peuvent lire sur Internet où des choses totalement absurdes sont affirmées par n'importe qui sans aucune preuve. Donc c'est aussi leur enseigner une vigilance démocratique et donc un enseignement extrêmement positif finalement.
Plus de 1000 stands et 4000 animaux exposés. Ce sera à la fin du Salon de l'Agriculture ce soir, porte de Versailles à Paris.
Oui, et plus de 600 000 visiteurs se sont déjà pressés dans les allées de la plus grande ferme de France. Beaucoup sont venus en famille, car pour les plus petits, le salon a des allures de parc d'attractions, avec une mention spéciale pour les vaches, comme l'a constaté Camille André.
Paul et Erwan sont juchés sur la pointe des pieds, main tendue vers un petit veau limousin.
On essaye un peu de les caresser, parce qu'on sait que c'est doux et c'est un peu intriguant.
Ce petit Normand a tanné ses parents pour venir au salon.
C'était pour mon anniversaire. On voulait voir tous les animaux et les prix et tout ça.
Elle aussi est enchantée d'être ici. Lucie fait partie d'un petit groupe en gilet fluo, tous de jeunes parisiens. En une matinée, elle est devenue incollable sur les moutons.
On a pu voir plusieurs races de moutons. Il y avait des moutons avec la tête noire, il y en avait qui étaient tout blancs, il y en avait où on avait déjà tondu.
Cela dit, il ne faudrait pas laisser nos petits parisiens aux manettes pour servir la ration.
Les chevaux mangent des pommes, des carottes. Et les vaches, ils mangent de la paille.
Ouais, de la paille, du foin, on y est presque. Lily, elle, connaît la différence. Elle est fascinée par les limousines.
Là, on regarde les vaches. J'adore ça. Je regarde des reportages sur ça.
Dommage que son petit frère Samuel ne partage pas cet enthousiasme.
C'était le pire jour de ma vie quand j'ai vu ces vaches pour la première fois.
Pourquoi ?
J'ai pas envie de le dire.
Tu t'es fait marcher sur le pied ?
Non.
Dis-le que tu t'es pris une bouse de vache, encourage son papy. Évidemment, vu l'histoire, faudra peut-être plusieurs salons pour réconcilier Samuel et les vaches.
Une belle histoire de bouse. Le tennis à présent avec un geste 100 fois répété, non pas à l'entraînement, mais pour l'histoire.
Et oui, Roger Federer est un centenaire comblé. Le Suisse, le tennisman suisse, a soulevé hier le 100e trophée de sa carrière. Il venait de remporter le tournoi de Dubaï en battant Stefanos Tsitsipas. À 37 ans, le numéro 1 mondial égale l'américain Jimmy Connors. Une performance qui lui fait remonter quelques souvenirs en mémoire.
Well, it makes me look back.
Ce titre me ramène en arrière à mes tout débuts en tant que joueur, à Bâle où c'était vraiment ma première fois, et notamment mon premier titre à Milan. J'ai toujours espéré gagner, et être assis ici avec ces 100 titres, c'est juste incroyable. Quand j'ai eu le 96e, le 97e, je me suis dit qu'atteindre 100 titres était possible. Au final, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment un moment unique à vivre ici, à Dubaï. J'aimerais remercier mon équipe sans qui rien ne serait arrivé. On voit le joueur, mais il y a du monde derrière, les amis, la famille, les parents, ma femme, les coachs, donc un très grand merci à eux.
Roger Federer, l'ex numéro 1 mondial.
C'était le journal de Claire Checaglini. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Avec des températures printanières cet après-midi, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait Eric, entre 13 et 20 degrés prévus du nord au sud, avec des pointes à 24-25 degrés sur le Béarn, le Pays Basque et la Bigorre. Sous un ciel plus ou moins voilé dans la moitié sud, parfois plus dégagé en matinée sur la Corse et les bords de la Méditerranée à l'est du Rhône. Par contre, plus haut, entre le nord de la Loire et le nord de l'Alsace, l'ambiance sera maussade et agitée, avec du vent à 70 km à l'heure dans l'intérieur, parfois 90 sur les côtes, de la pluie plus marquée en journée sur les départements côtiers. Et puis ce soir, les pluies vont se renforcer sur le quart nord-ouest, de même que le vent, avec des rafales proches de 100 km à l'heure, notamment sur le Finistère, le Cotentin et la Vendée.